France Musique. France Musique, les larmes de Mika.
Bonjour, c'est Mika et bienvenue dans les larmes de Mika. Nous allons passer une heure ensemble, jusqu'à 21h, avec mes disques préférés. Cette émission s'appelle les larmes de Mika, pourquoi ? Parce qu'en fait, pour vous dire la vérité, je ne suis pas vraiment quelqu'un qui pleure facilement. Je ne sais pas si c'est de la pudeur ou quoi, mais pendant ce premier confinement, je me suis retrouvé dans une situation complètement différente, comme tout le monde. J'étais à Athènes, avec mon compagnon, et j'étais dans la cuisine. Et tous les matins, j'écoutais de la musique, sans distraction. Le téléphone ne sonnait pas, j'avais pas mon ordinateur. Je faisais juste ça, écouter de la musique avec une tasse de café dans ma main. Et je me souviens du moment où j'écoutais un morceau de Vivaldi par Cicci et Bartoli. Et tout d'un coup, il s'est passé quelque chose. J'ai commencé à pleurer. J'ai eu une larme. La musique m'a provoqué une émotion tellement forte. Je pense que pendant cette période, je me suis rendu beaucoup plus sensible à la musique. D'une manière que je ne l'étais pas depuis presque mon adolescence. Et j'ai commencé à écouter, redécouvrir, découvrir des nouveaux morceaux et vraiment prendre cette opportunité. Cette connexion à nouveau. Et c'est ça ce que je veux communiquer aujourd'hui. Donc, on va voyager ensemble. De la musique qui provoque de l'émotion, des larmes, de tristesse de temps en temps, mais aussi des larmes de joie. Mais pour ça, il faut des grands compositeurs, des grandes chansons, des grands interprètes. Et le premier qu'on va entendre, c'est Brinterfell, avec un morceau qui est très important pour moi. C'est une chanson de George Butterworth, Six Songs from a Shropshire Lad. The Lads in the Hundreds, c'est le nom du titre. Et le poème est écrit par A.E. Housman. Il y a Brinterfell qui chante, accompagné par Malcolm Martineau au piano, dans l'album d'English Songs, The Vagabond. Le Vagabond. Malcolm Martineau, c'est un grand pianiste. Et Brinterfell, c'est un énorme interprète. Si vous avez eu le privilège de voir Brinterfell sur la scène, vous savez que c'est quelqu'un d'extrêmement physique. Il transpire, sa voix, elle casse, il ramasse des choses, il tombe par terre. Il a une physicalité qui est assez étonnante. Mais si on l'écoute d'une autre manière, avec cette chanson du XXe siècle, en anglais, et avec une poésie extrêmement tendu et extrêmement chargé. Vous devez comprendre que Lads in the Hundreds, c'est les gars dans leur centaine en train de rentrer à la foire de Ludlow. Ludlow, un petit village. Mais en fait, là, il est en train de parler de la mort. Il décrit la vie de tous les jours pour en fait souligner ce qui se passe après. Ces millions de gens qui ont été perdus pendant la Première Guerre mondiale. Toute une génération de jeunes hommes. Cette chanson rend hommage à tous ces garçons qui arrivent sans savoir ce qui va se passer après et qui ne reviennent pas. The lads in the hundreds, les gars dans leur centaine, who will never grow old, qui ne le savent pas, mais ils vont jamais vieillir. Voici Brinterfell.
The lads in their hundreds to Ludlow come in for the fair. There's men from the barn and the forge and the mill and the fold. The lads for the girls and the lads for the liquor are there, and there with the rest are the lads that will never be old. and the cart, and many to count are the stalwart, and many the brave, and many the handsome of face, and the handsome of heart, and few that will carry their looks or their truth to the grave. I wish one could know them, I wish they were tokens to tell the fortunate fellows that now you can never discern. And then one could talk with them friendly and wish them farewell and watch them depart on the way that they will not return. But now you may stare as you like, and there's nothing to scan, and brushing your elbow and guessed at and not to be told, they carry back bright to the coiner the mintage of man, the lads that will die in their glory and never be old.
C'est quoi une grande voix? C'est quoi un grand chanteur? Eh ben, c'est quelqu'un qui provoque de l'émotion. C'est quelqu'un qui a une sorte d'intemporalité. Je me souviens toujours, quand j'étais au conservatoire, au Royal College of Music, bon, on était une petite classe. Et dans ma classe de 5 personnes, il y avait une superbe chanteuse qui s'appelle Sophie Bevan. Sophie Bevan, maintenant, qui chante dans toutes les plus grandes opéras du monde. Et un jour, elle me regarde, elle me dit, tu sais, le secret, c'est qu'il faut écouter, mais surtout, il ne faut pas trop écouter. Parce que c'est seulement si tu restes toi-même que dans ce monde d'interprètes de musique classique que tu vas pouvoir toucher les gens. Et c'est là ce qu'on retrouve dans tous les gens que j'ai choisis pour cette première partie de notre émission. Alors de Brinterfan, maintenant, on va écouter du Nina Simone. Et je sais que c'est un grand écart. Peut-être. Mais la vérité, c'est que il y a beaucoup de similitudes. Cette chanson de Nina Simone, c'est une version très spéciale d'un titre qui s'appelle « Black is the color of my true love's hair ». Noir est la couleur de mon amour, des cheveux de mon amour. Avec cette version qui était enregistrée en 1964 à New York, on entend Nina Simone avec son piano. Black is the color of my true love's hair est une balade traditionnelle américaine qui vient des Appalaches, the Appalachian Mountains. Mais en fait, on pense qu'il s'agit d'une mélodie écossaise. J'aime bien cette idée qu'une chanson est une recette et qu'il faut l'interpréter. Et que chaque fois qu'on la chante, on peut l'interpréter d'une autre manière. Mais c'est pas juste l'interprète, parce qu'un compositeur peut prendre un texte ou une mélodie et aussi transformer cette chanson. Par exemple, Black is the color of my true love's hair. Il y a même une version de Berio. On va écouter un petit extrait juste pour comprendre à quel point une chanson peut changer.
Black, black, black is the color of my true love's hair. His lips are something rosy fair. The sweetest smile and the color.
Un grand classique. On a toujours l'idée qu'un grand classique, c'est une chanson des Beatles ou c'est Puccini. Mais Black is the color of my true love's hair est un grand classique. Black is the color of my true love's hair, mais on peut parler d'une femme, on peut parler d'un homme, on peut même parler de la politique, comme a fait Nina Simone en 1969, car elle a enregistré ce morceau après le bombardement d'une église baptiste par le Ku Klux Klan. Et là, elle a inséré le slogan « Black is beautiful ». une chanson qui change de forme, qui change de sens, mais qui reste la même chanson. Ça, c'est la définition d'un grand classique. Voici Nina Simone, en toute intimité.
Black is the color of my true love's hair. His face so soft and wondrous fair.
C'était Nina Simone, Black is the color of my true love's hair. Elle joue le piano d'une manière tellement serrée. En fait, c'est parce qu'elle voulait être musicienne classique. Elle voulait aller au conservatoire. Et elle n'a pas pu avoir de bourse pour aller au conservatoire. Donc, sa musique a pris une autre direction. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment une beauté très chargée dans cette douleur. Et c'est comme si elle prend le pouvoir. Elle va au-dessus de la tristesse, de la mélancolie. Et à un certain moment, cette idée de la mélancolie dans la musique, c'était très, 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 très à la mode. C'est pas la mode d'aujourd'hui, c'était la mode du XVIIe siècle. C'était le temps élisabétain. Le titre que j'ai choisi, c'est « Flow My Tears » de John Dowland. Là, on est dans la séduction, dans la beauté. Originellement, c'était « Lacrimei pavane pour lutte seule ». Et ce qui est extraordinaire dans le poème, c'est qu'il n'explicite pas vraiment les raisons de la mélancolie, parce que c'est un état d'esprit, la mélancolie élisabéthaine. Et quand on pense à l'art de cette période, on a vraiment des portraits qui sont très formels, avec des regards très durs. Mais là, dans la musique, on est dans la séduction, dans la beauté, dans la tristesse délicieuse, une sorte de nature morte musicale.
Les larmes de Mika, France Musique.
J'adore recontextualiser un titre comme Flow My Tears, parce que quand on pense que c'était à la mode, cette tristesse, cette mélancolie, cette sorte d'esprit fadoesque, eh ben, c'est comme si ça devient un petit peu comme une chanson pop. On comprend le sens populaire de l'émotion qui était derrière cette chanson. Et c'est dingue parce qu'on considère jamais ces titres de cette manière-là. Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir un petit peu, quand j'étais au conservatoire, à ce que c'était un geste pop. C'est quoi la musique pop? C'est quoi cette obsession, cette division entre la musique légère, light music, comme il disait au Royal College of Music, and serious music? Et où est-ce qu'on met aussi la frontière entre les deux? C'est quoi la règle? La vérité, c'est qu'il n'y en a pas. Encore une fois, si on pense à la recette, eh ben la recette, c'est la chanson, mais on peut l'interpréter de plein de différentes manières. Et j'ai découvert ça vraiment avec le travail de Kurt Weill. Kurt Weill est un homme qui m'a vraiment fasciné. Pour moi, c'est un énorme anti-snob. Et pour moi, aussi, c'était un refuge lorsque j'étais au conservatoire. J'adorais la musique classique, mais aussi la musique pop. Kurt Weill, il disait qu'il fallait être anti-snob. Et dans sa vie, il a fait plein de choses. Il travaillait beaucoup avec Bertolt Brecht. Il a écrit l'opéra Katsu. Et ce qui est intéressant avec l'opéra Katsu, c'est que la première version de cet opéra, elle était hard, elle était extrême. C'était un montage dystopique, extrêmement brechtien. Donc la société qui était dans le public regardait ce qui se passait sur la scène et l'idée, c'est que ça devait provoquer une sorte de révulsion. Ils devaient être dégoûtés par ce qu'ils voyaient. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont choisi d'avoir seulement des comédiens sur la scène et pas de chanteurs. Donc c'était du Sprecht, des gens qui récitaient, qui chantaient mal, mais qui chantaient avec urgence et qui jouaient les mots au lieu de les chanter. Et bien là, on va écouter un disque que j'ai découvert il y a presque 20 ans maintenant. C'est la première version de Mack the Knife, cette chanson qui ensuite est devenue un énorme tube pour Frank Sinatra, pour Ella Fitzgerald, pour beaucoup de gens. Mais là, c'est la femme de Kurt Weill, la comédienne Lotte Lania, qui est en train de le chanter à Berlin.
Und der Haifisch, der hat Zähne, und die trägt er im Gesicht. Und McKeith, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht.
Kurt Weill avait souffert pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a été déplacé, comme beaucoup, beaucoup d'autres compositeurs et auteurs. Et il a mis ça dans sa musique. Cette idée que la musique aussi doit rendre hommage ou un petit peu souligner même les parties les plus dark et nos plus grands traumatismes humains. c'est quelque chose de très important. Et en 1960, Christophe Penderecki a écrit « Traîne à la mémoire des victimes d'Hiroshima ». Il n'y a pas un sujet plus difficile. Comment décrire en musique cette bombe qui tombe, cette souffrance? Pourquoi le faire? Comment le faire? Chaque personne le fait d'une manière différente. Mais Christophe Penderecki l'a fait comme ça. Et là, on va écouter un petit extrait d'un morceau qui dure presque 9 minutes, qui est d'une beauté extrême.
Musique, les larmes de Mika.
De plus en plus dans ma vie, j'écoute du jazz. Pour moi, c'est un mystère. Je ne comprends pas comment une note se lie à l'autre, comment un saxophoniste peut glisser entre tellement de différentes notes, tellement de différentes tonalités. C'est comme si tout glisse, tout se déplace. Et ça provoque en moi une sensation extrêmement particulière. Je me sens libre. Et cette chose mystérieuse pour moi, l'exemple de ça, ben, ça provoque presque quelque chose de spirituel. C'est comme si, avec le jazz, je me rapproche au ciel. Mais vraiment. Et je peux juste imaginer ce que c'était dans les années 40, où tout ça se formait pour la première fois, de nulle part, bam, ces notes. On a le swing, on a le côté un peu plus formel. On a toute cette période du swing qui est devenue en fait quelque chose vraiment, dans un sens, la musique des blancs glamour des États-Unis. Eh ben, un musicien, un saxophoniste, Charlie Parker, qui dit que lui, il veut développer une musique qui est tellement complexe, qui est tellement formée de tellement différents éléments, qu'elle peut pas s'approprier aussi facilement que le swing. Et qu'elle reste son propre truc. Et ça, c'est le bebop. Ce bebop qui provoque en moi, et probablement en beaucoup de vous, un sentiment d'émerveillement, même aujourd'hui. Voici Charlie Parker, Cherokee.
Thank you.
Charlie Parker disait que la musique est le reflet de votre propre expérience, votre pensée et votre sagesse. Si vous ne la vivez pas, elle ne sortira pas de votre instrument. Aretha Franklin, elle dit, il faut laisser rentrer et laisser la chanteuse, le musicien, exprimer l'esprit. To fill yourself with spirit. Ce que j'adore, que là, on est en train de parler de l'esprit, on n'est pas en train de parler de la religion. Mais quand même, ça reste quelque chose d'assez sacré. Quand quelque chose est pur, urgent, et vient vraiment d'un endroit qui est sincère, eh ben, ça connecte avec les gens. Ça prend de l'ampleur. Ça devient important. Et cette spiritualité, eh ben, elle est toujours présente. Et là, excusez-moi pour un instant, mais je vais devenir un petit peu geek parce que je vais parler de quelque chose qui est vraiment, moins connu. On n'est pas dans les années envoûtantes des années 60 de New York, de Harlem. Non, ça c'est Hildegard von Bingen Columba Aspexit. Eh ben, c'est qui? En fait, c'est une femme radicale, mystérieuse, complètement punk du XIIe siècle. Cette moniale bénédictine mystique qui était en vie entre 1098 et 1179, je vous ai dit, c'est le moment geek, elle était compositrice, pharmacienne, philosophe, mystique, botaniste, théologienne. Elle a écrit des traités botaniques et des ouvrages médicaux qui ont fondé deux monastères recevant l'inspiration divine sous forme d'hallucinations. Je vous ai dit, elle était punk et elle écrivait des choses comme ça.
Oh,
recontextualiser la musique. En fait, quand j'étais dans la bibliothèque, au conservatoire à Londres, j'avais 19 ans. Et pour moi, la chose qui m'a vraiment libéré l'esprit et qui m'a changé aussi mon regard sur la musique autour de moi, peu importe si c'est du jazz, du pop, du électro ou du classique, eh ben, c'est que je commençais à comprendre le contexte dans lequel les œuvres étaient écrites. Et ça changeait tout. Claudio Monteverdi. On pense que c'est bien éduqué, bien rigide, formel, tout est à sa place. Mais c'est pas vrai. Parce que là, on est en train de sortir de la Renaissance, où il y a des règles extrêmement strictes. Parce que tout était écrit, on pouvait pas sortir de ces caisses. Et bien là, il y a Monteverdi qui arrive, et qui finalement commence à mélanger l'émotion dans la musique. Il met la musique au service de l'émotion, avec l'ornementation, et aussi, quand il y a quelque chose qui est un peu triste dans les paroles, eh ben là, il met de la dissonance. C'est radical. Ça change tout. Mais sans Monteverdi, évidemment, il n'y aura pas le reste. L'élite qu'on connaît maintenant, de Brahms, de Schubert, eh ben, ça aurait été impossible. Grâce à ça, on a eu Schubert.
Thank you.
France Musique, Les larmes de Mika.
Juste avant d'écouter ce morceau de Monteverdi, j'ai parlé de Schubert. Alors évidemment, maintenant, je vais jouer du Schubert. Qu'est-ce que je vais jouer? Le Winterreise, Die Krähe. Et pour moi, le grand standard, c'est Dietrich Fischer-Dieskau avec le pianiste Gerald Moore. Comment chanter sans chanter? Vous savez, c'est la grande question. Il faut avoir tellement de maîtrise technique et tellement d'intelligence émotionnelle pour pouvoir faire oublier à son public qu'on est en train de chanter. Ça devient juste de l'émotion illustrée, je sais pas. C'est de la magie. Eh ben, Dietrich Fischer-Dieskau, il a ça. Andreas Scholl, il a ça. Winterfell, Nina Simone, ils ont ça. Ils savent comment le faire. Et ça vient d'où? Ça vient des mots. Ça vient de la poésie. Et aussi, ça vient de quelque chose, on n'en parle pas trop, mais c'est cette collaboration entre le pianiste et le chanteur. Ils sont complètement in sync, ils sont ensemble. Ils dessinent le paysage à l'instant dans une collaboration totale. Et on l'entend et on le sent. Alors voilà Dietrich Fischer-Dieskau et Gerald Moore. Avec Die Krähe, du Winterreiser.
Eine Krähe war mit mir aus der Stadt gezogen, ist bis heute für und für um mein Haupt geflogen. Wunderliches Tier, willst mich nicht verlassen? Meinst wohl bald als Beute hier meinen Leib zu fassen? Nun, es wird nicht weit mehr gehen an dem Wanderstabe. Lass mich endlich sehen, Treue bis zum Grabe. Krähe, lass mich endlich sehen, Treue bis zum Grabe.
On a toujours cette idée que les chanteurs, c'est vraiment des gens qui portent, je sais pas, beaucoup d'écharpes et qui boivent beaucoup de thé. Et au moins les chanteurs classiques, mais je vous confirme que c'est pas du tout le cas. Hein. Au moins, pas les chanteurs classiques que je connais. Et Dietrich Fischer-Dieskau, à part le fait qu'il fumait 40 cigarettes par jour, c'est plus que ça. C'est son âme qui était tellement fort. Et cette urgence. Si Winterfell, il transpire partout et casse sa voix lorsqu'il est en train de jouer un rôle, eh ben, Dietrich Fischer-Dieskau le fait d'une autre manière, mais on sent vraiment que ce qu'il est en train de nous raconter, c'est du vrai, ça brûle, même juste en l'écoutant. Eh ben, une autre chanteuse qui a pris le monde de l'opéra et qui l'a secoué, qui a enlevé même toutes ces gentillesses qu'on peut entendre dans certains enregistrements, par exemple, quand on entend des très beaux enregistrements de Caruso, eh ben, c'est assez correct quand même. Mais là, cette chanteuse-là, elle arrive et elle bouleverse tout le monde avec cette voix qui est comme du feu et des larmes et du soleil qui sort d'un être humain. Il y a des gens qui ont essayé de l'attaquer en disant qu'elle chantait avec des pommes de terre chaudes dans la bouche, mais c'était pas vrai, parce que c'est de l'émotion pure et c'est l'équilibre aussi. C'est ce mix des muscles vocaux et de cette sensibilité extrême. Évidemment, je suis en train de parler de Maria Callas. Ça, c'est Puccini, Manon Lescaut, Sola, Perduta. abbandonata. Vous savez, il y a une partie de moi qui est un petit peu, qui fait le deuil pour la physicalité des CD. Pour moi, c'est les CD. Pour des autres, c'est le vinyle. Mais vraiment, ce processus de regarder toutes ces petites affiches, de sortir le petit livret et de lire le graphisme, Chandos, Deutsche Grammophon, de voir les noms, la photo de Richard E. Cox, de George Schulte, de Maria Callas, des photos de répétition, des décors, des dessins. Ça me manque. Et je veux juste te dire, parce que je pense que c'est important aussi de le préserver. Parce que moi, quand je ferme mes yeux et je pense à La Flûte Enchantée, je vois quand même la version que je connais de la couverture de ce CD de Naxos. Et de la même manière, quand j'écoute Puccini et aussi quand j'écoute plein d'autres trucs, et dans ce cas, c'est Benjamin Britten, eh ben, j'ai l'odeur du théâtre dans mon nez. La première fois que je suis monté sur scène, c'était une opéra de Strauss, Die Frau ohne Schatten. Et le décor, c'était un décor de David Hockney. Ça sentait la peinture partout, la poussière, les lumières chaudes, les costumes extrêmement inconfortables, qui sentaient la peinture aussi. Mais tout cela est vraiment resté dans ma mémoire. Pour terminer cette émission, Les larmes de Mika sur France Musique, c'est un morceau de Britten. C'est pas une opéra, c'est pas The Rex Progress, par exemple. En fait, c'est la Nocturne, qui est un extrait de la Serenade for Tenor Horn and Strings. Et je le fais comme un remerciement, en fait, à un homme qui m'a supporté pendant des années. C'était mon prof de musique, mon prof de chant. Il s'appelait Neil Mackey. C'était aussi le patron d'études vocales, de Voice Studies au Royal College of Music. Et c'est lui que j'ai supplié pour me donner une audition à 20h du soir, le jour que j'ai décidé de quitter la London School of Economics, l'école de l'économie, pour aller au conservatoire. Et je l'ai attendu dehors du Royal College of Music. Je l'ai suivi à sa voiture, je l'ai demandé une audition. Il me l'a donné le jour après, il m'a donné une place. C'est grâce à lui que je fais de la musique aujourd'hui. J'en suis sûr. Et lui, c'était le protégé de Peter Pears. Peter Pears, un grand ténor britannique, qui était aussi le compagnon de Benjamin Britten. Quand Britten a entendu sa voix, il est tombé amoureux de l'homme, mais aussi ça lui a inspiré d'écrire ses chansons pour cette voix. Voici la Nocturne, chantée par Peter Pears. Et Neil Mackey, je te remercie.
In glory, blow, bugle, blow, set the wild echoes flying, bugle, blow, answer, echoes, answer, die, 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 die.
C'était Les Larmes de Mika sur France Musique. C'était ma première mission ici et j'espère qu'on va pouvoir en faire plein d'autres. Et vraiment, merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir suivis lorsqu'on a fait ce voyage du 12e siècle en Europe jusqu'à New York dans les années 60 à Harlem avec le jazz. Des choses qui me touchent le cœur et j'espère vraiment qu'on a provoqué de l'émotion en vous. Et c'est un travail que j'ai pas fait tout seul et je veux remercier l'équipe. Arnaud Chapat, Frédéric Kiefer, Christophe Dillis, Marjolaine Portier, Kaltenbach et toute l'équipe de France Musique. Et merci surtout à vous de nous avoir accompagnés et écoutés pour cette première, Les Larmes de Mika. Si vous avez envie de réécouter cette émission en entier ou même juste un extrait, vous pouvez le faire sur francemusique.fr et bien sûr l'appli de Radio France.
À réécouter sur francemusique.fr.